Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour à toutes et à tous, la Grande Tchatch, l'émission du Ravi avec Radio Grenouille. La politique est à l'honneur, la politique est à demeure, c'est tous les deuxièmes samedis du mois avec les 3-8. Le Ravi, c'est le mensuel satirique dans tous les kiosques de la région. Lui, il paraît tous les premiers vendredis de mois. Pour ceux qui l'ont loupé, il en reste encore dans tous les kiosques. Également sur internet, www.leravi.org. Invité de cette tchatche aujourd'hui, Jean-Luc Benamias. On parlera d'écologie, bien entendu, mais également de politique. Jean-Luc Benamias qui est conseiller régional, mais également député européen. Jean-Luc Benamias, bonjour.
Bonjour.
Alors, avant de commencer cette émission, de vous interroger sur les élections qui arrivent, sur l'écologie, on vous tire le portrait, en quelque sorte, avec Michel Guéraud.
Auditeur intransigeant, pardonnez un instant notre superficialité. Jean-Luc Benamias, c'est d'abord une tronche et un style. Qui n'a pas arpenté les travées du Conseil régional, où vous êtes élu depuis 2004, ne peut pas comprendre le plaisir enfantin des journalistes lorsqu'ils aperçoivent votre dégaine au milieu des notables costumés. Réfractaire à la cravate, prompt à alterner coups de gueule et éclats de rire, vous perpétuez avec brio un savoir-faire forgé dans les années 70. Cette époque où vous écriviez dans des canards alternatifs comme « Anti-rouille », Tumulte ou La Gueule Ouverte, le journal qui annonce la fin du monde, si, c'est pas inventé. Mais la vie en communauté, le PSU, les Amis de la Terre, c'est de l'histoire ancienne. Bon gré, mal gré, vous voilà devenu, la cinquantaine passée, un véritable professionnel de la politique. Le grand public vous a découvert avec votre nomination en 1997 au secrétariat national des Verts, le fameux poste où tous ressortent totalement lessivés, sans phosphate, bien entendu. Après, il y a eu diverses tentatives électorales. Vous portez les couleurs de la gauche plurielle en Seine-Saint-Denis face au très droitier Robert Pendreau lors des législatives en 1997. Vous échouez de peu. Vous êtes candidat au municipal à Noisy-le-Grand en 2001. Vous échouez de beaucoup. Et 2002 marque un tournant. C'est l'année de votre parachutage. J'ai bien dit parachutage, sur Marseille. L'atterrissage est rude, soutenu par les socialistes, Renaud Muselier vous élimine pourtant dès le premier tour. Comme il se doit, une partie des écolos n'apprécie pas l'arrivée d'un Parisien. Mais vous refusez de reprendre vos bagages, une persévérance qui s'avère payante. En 2004, vous êtes élu tour à tour conseiller régional en PACA et député européen du Grand Sud-Est. Bien sûr, rien n'est jamais rose chez les Verts. Des conseillers régionaux claquent la porte de votre groupe, vous accusant d'être un cumulard. Reproche auquel vous aviez déjà eu à faire face lors de votre désignation au Conseil économique et social. Lors du référendum sur le traité constitutionnel, votre ardent plaidoyer pour le oui ne vous fait pas que des amis. En soutenant en vain, récemment, une candidature unitaire des écologistes derrière Nicolas Hulot, vous avez sans doute donné l'envie à quelques Verts de vous recycler définitivement. Mais, grand amateur de foot pour lequel vous réclamez plus de transparence financière en Europe, vous aimez le sport. Décomposition, recomposition politique semblent avant tout vous stimuler. Cette affaire Hulot, c'est du passé déjà ou ça peut déboucher sur quelque chose?
Ce serait du passé si les candidatures écolo qui existent aujourd'hui sur le panel politique visible, c'est-à-dire Dominique Voynet, candidate des Verts, Corinne Lepage et maintenant José Bové, n'étaient pas autour de entre 1 et 4% pour être gentil. Je sais pas, moi, le fait que Nicolas Hulot ait été estimé par les instituts de sondage à 8, 10, 11, 12% me porte plutôt à croire qu'il y aura toujours affaire avec Nicolas Hulot dans les perspectives politiques post-présidentielles et post-législatives.
Alors, les Verts, un parti pas comme les autres, mais néanmoins qui fait de la politique comme les autres, puisque cette affaire Hulot a déclenché une cacophonie au sein des Verts, une candidate officielle, des gens qui ne la soutenaient pas, vous en l'occurrence. Alors, c'est quoi aujourd'hui les Verts?
C'est pas que je soutiens pas Dominique Voynet. Dominique Voynet, j'ai été son directeur de campagne en 1995. Après, j'étais directeur de campagne d'Anicon Bendit. Après, j'étais directeur de campagne de Noël Mamère. J'étais secrétaire national, vous l'avez rappelé. Le problème n'est pas là. La question de savoir comment pèse l'écologie politique en France, en Europe et dans le monde. Comment on passe au stade des réalisations et comment on répond au grand public aujourd'hui qui a compris totalement quels étaient les éléments nécessaires à la sauvegarde de la planète. Changement climatique, effet de serre et ainsi de suite. Tout le monde a compris aujourd'hui. Enfin, une majorité de nos concitoyens ont compris. Mais pas uniquement en France, ce ne serait pas intéressant. Mais dans le monde entier. Et qu'est-ce qu'on fait pour que ça réussisse? Comment on pèse politiquement? Et toute la bagarre n'est pas de savoir si c'est Voynet, Hulot, Beauvais, Corinne Lepage et je ne sais qui d'autre. Le poids politique que nous avons dans l'opinion publique doit être représenté légitimement dans les instances politiques. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on voit au présidentiel? Bon, des scores dans les sondages relativement ridicules, je le déplore, des possibilités au niveau législatif.
Alors comment vous expliquez qu'il n'y ait pas d'adéquation justement entre...
Je pense que l'électorat écolo est un électorat très diversifié, sur un corpus sociologique extrêmement important, qui va des gens qui vivent dans des quartiers difficiles, ou à ce qu'on appelle les bobos, et que pour répondre à tout ça, il faut un discours politique totalement rénové. Et que je pense qu'aujourd'hui, les Verts ont une grande difficulté à avoir un discours rénové, suffisamment décalé par rapport à la classe politique existante, pour plaire et pour être crédible. C'est toute la difficulté. Après ça, il y a aussi ce qui s'est passé au niveau des Verts, au niveau national, depuis de nombreuses années, sur le côté extrêmement politicien de ce mouvement.
Oui, mais justement, là, par exemple, soutenir Hulot au moment même où votre candidate, Voynet, lance sa campagne, est-ce que ça ne donne pas une image quand même à nouveau désastreuse de ce parti et de ces mouvements d'appareil?
Je m'excuse de dire que soutenir Hulot, ce n'est pas nouveau pour Benhamias. Avant que Hulot soit candidat, en mars dernier, et avant mars dernier, j'étais déjà pour une candidature unique de la gauche avec des primaires comme en Italie. Le PS n'en a pas voulu, très bien, passons. Immédiatement après, ayant réfléchi avec quelques autres personnes, je pensais qu'il fallait une candidature unique de l'écologie politique, qui pouvait être Hulot, qui pouvait être Voynet d'ailleurs, les deux sont bien porteurs, mais qu'il fallait une candidature unique par rapport à tout ça, qui réponde aux besoins, aux nécessités. Ça n'a pas été le cas. Je n'ai rien inventé, moi, après, en septembre, octobre, quand Hulot s'est lancé directement dans une pré-campagne, sans se présenter à la fin. Je n'ai rien inventé. Je ne suis pas venu comme un opportuniste. J'ai, je crois, été moteur par rapport à cette affaire. J'ai été moteur quand les Verts ont invité, à leur journée d'été, qui sont toujours réussis d'ailleurs, à Coutances, fin août, avec Stéphane Pocrin, Nicolas Hulot, Corinne Lepage, Dominique Voynet, en réunion publique, avec plein d'assos qui étaient représentés, WWF, Amis de la Terre, Greenpeace, et ainsi de suite. Voilà. Ça n'a pas réussi. Nicolas Hulot a hésité fortement pour des raisons qui sont d'ailleurs tout à fait respectables. Comment recomposer un paysage politique de l'écologie politique si diversifié, si chaotique, si difficile? Comment prendre sa place dans un paysage politique français si chaotique lui aussi, dans une 5e République si chaotique? Voilà, il a fait un choix qui est respectable. Moi, je ne regrette rien de ce que j'ai fait.
Mais est-ce que là, il n'y avait pas comme le désir du recours à un homme providentiel? Enfin, je vais prendre un exemple paradoxal.
Des hommes présidentiels.
Si David Douillet, qui est très populaire, se mettait à parler d'écologie, est-ce que ça serait tout d'un coup le meilleur candidat pour porter les valeurs de l'écologie? Est-ce que les Verts, c'est pas aussi, c'est une question, en tout cas, on vous a entendu un moment sur ce terrain-là, une autre façon de faire la politique.
J'en s'en fout de ça. Faire de la politique, c'est passer au stade des réalisations. Faire de la politique autrement, c'est du bidon, et je le dis depuis 20 ans, depuis l'après-PSU, la politique autrement, ça n'existe pas au niveau électoral. Ce qui est utile par rapport aux Françaises et aux Français et par rapport à nos concitoyens, c'est de faire de la politique honnêtement, point barre. Et c'est ça qu'ils attendent. Alors honnêtement, c'est bien. Nicolas Hulot et David Douillet, j'aime beaucoup David Douillet, très beau champion olympique, deux fois de suite, c'est génial. Sauf que je n'ai jamais entendu parler de David Douillet d'écologie. Nicolas Hulot est devenu, au fur et à mesure, d'un animateur de télévision, s'occupant de nature, s'occupant de sport, s'occupant de faire son métier, est devenu, au fur et à mesure des années, un écologiste convaincu. D'un écologiste convaincu, il en est venu à se dire « j'ai envie d'agir, de passer au stade de l'action et de la réalisation ». Il va continuer à le faire, enfin, j'en doute pas. D'ailleurs, on verra ça très vite sur Marseille, le 15 février, au Festival Sciences Frontières. Point barre, moi, j'accepte et je reconnais aux gens le droit d'évoluer et de changer. Je prends les aspirations des gens comme elles sont. J'accepte que nos concitoyens aient mis un certain temps à comprendre que les définitions écolo-politiques depuis René Dumont en 1974, rien de nouveau par rapport à ce que disait René Dumont, hein, sur l'effet de serre, l'épuisement des ressources naturelles, de l'eau, du pétrole, et ainsi de suite. Rien de nouveau. Ça a mis un certain temps. J'accepte que les gens évoluent.
Vous acceptez donc l'orientation écologique soudaine, ou en tout cas récente, de Jacques Chirac ?
Mais non, elle n'est pas récente. J'accepte totalement les mots de Jacques Chirac. J'aurais pu signer le discours de Johannesburg dès demain. Je pouvais signer ce qu'a dit Jacques Chirac. Je peux signer ce qu'a dit Jacques Chirac la semaine dernière au grand colloque du GIEC à Paris. Sauf que j'attends des réalisations derrière. Aucune réalisation. Ce que j'attends des hommes et des femmes politiques et des écolos politiques, c'est de réaliser. Le temps de la propagande est terminé. On est au stade où il nous faut réaliser, montrer à nos concitoyens que nous servons à quelque chose. Pour servir à quelque chose, il faut du rapport de force politique. Pour avoir du rapport de force politique, il faut exister dans les élections.
Alors, est-ce que le rapport, enfin la différence, l'opposition droite-gauche est une opposition qui est dépassée ? Parce que c'est quand même une des caractéristiques du positionnement d'un Hulot. Et on avait cru comprendre que les Verts se définissaient à gauche en défendant l'écologie.
Oui, oui, à gauche, oui. Mais à gauche non productiviste. À gauche dans le sens du développement durable. À gauche dans le sens de définition d'utilisation des ressources du progrès ou de la technologie dans le sens de l'amélioration de la vie quotidienne des gens. Dans le sens de l'amélioration de l'avenir de la planète et ainsi de suite. Est-ce que c'est ça qu'on voit aujourd'hui ? Point. À chaque fois, on nous reparle de croissance qui va permettre l'emploi et la technologie sauvera l'ensemble. Moi, désolé, il y a effectivement des différences entre la droite et la gauche dans le cadre des répartitions financières et de la redistribution. Dans ce cadre-là, il n'y a rien de changé. Et moi, si Nicolas Hulot avait été candidat, je ne changeais rien au point principal de ce que veulent les Verts en politique, c'est-à-dire une alliance privilégiée avec la social-démocratie et ce qui reste de la gauche communiste, si vous voulez. Clairement.
Là, mais c'est qui parle ? C'est Jean-Luc Benamias ou c'est les Verts ?
Parce qu'on a l'impression que c'est Jean-Luc Benamias qui parle. Mais Jean-Luc Benamias parle forcément au nom, à un moment donné, peu ou prou, au nom des Verts par rapport aux 30 ans d'écologie politique qu'il a derrière lui, comme un certain nombre d'autres écolos politiques historiques, si vous voulez. Dans ce cadre-là, moi, je parle en mon nom. Je dis simplement que j'essaie de définir avec d'autres des perspectives politiques qui nous fassent peser dans le paysage politique. Je n'accepte pas, je ne supporte pas d'être aujourd'hui dans les sondages à 1,5-2%. C'est insupportable. 30 ans de politique pour arriver à 1,5-2%, mais au bout de 6 mois de politique, on fait 1,5-2%, c'est pas un problème. Donc, répondons aux besoins de la société. Répondons et comprenons que la société est ouverte, qu'elle est en plein chamboulement. Et regardons ce qui se passe dans la société politique française, européenne ou mondiale. Regardons les éléments d'évolution. Bien sûr qu'il y a des différences entre la droite et la gauche, mais par rapport au changement climatique, par rapport à l'effet de serre, il faut bien des politiques publiques menées au niveau des grands continents, notamment au niveau de l'Union européenne, au niveau d'autres grands continents, Chine, Pacifique, Amérique du Sud ou Amérique du Nord, qui permettent des évolutions notoires. Sinon, on va dans le mur. Et dans ce cadre-là, des grands éléments de décision politique se passent bien évidemment au-delà de la droite et de la gauche dans ce cadre-là.
Donc une grande synthèse, Lepage, Hulot, Vert.
Ça c'est la vision.
Oui, mais c'est ce qui a été défendu là.
J'ai défendu ça parce que je pensais et je pense toujours que plusieurs candidatures dans un cadre présidentiel tel qu'il se présente en France dans la Ve République, c'est une aberration totale. C'est un combat de nains. Moi je veux bien que les gens participent à un combat de nains. Pourquoi pas ? Moi j'ai pas envie d'y participer. Ma signature, Dominique Voynet l'aura par rapport aux 500 signatures. Mais pour le reste, je ferai campagne. Mais vous m'excuserez de penser que nous méritons mieux et que surtout le grand public qui nous attend, nos concitoyens et notre électorat, attend beaucoup plus de nous.
Qu'est-ce que vous pensez de la candidature de France Gamer, une élue locale ?
Elle défend de l'écologie également.
No comment.
Hein. No comment ?
Mais évidemment.
C'est-à-dire ?
Mais attendez, je veux dire, il faut... sur France Gamer,
Jean-Luc Benamias, on a l'impression quand même qu'il y a un combat idéologique qui est noble, en l'occurrence le vôtre, et tous les autres ne trouvent pas grâce à vos yeux. Alors expliquez un peu, approfondissez.
Attendez, il faut préciser à nos amis de Génération Écologie de Marseille que ça n'existe plus, Génération Écologie. Quoi. Tout le monde le sait en France, sauf eux. Voilà, point barre, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Moi, je veux bien discuter.
Si on quantifie l'existence, ils sont pas loin d'1% de Dominique Voynet, en l'occurrence.
Ah non, j'ai essayé de trouver un sondage où elle est nommée. Il n'y a pas un sondage où elle est. Non, mais je m'en fous, quoi. Je veux dire, c'est pas intéressant.
D'accord. Autre mouvement qui est à la mode en ce moment, c'est les altermondialistes. C'est un mouvement qui vous était sympathique il y a quelques temps de ça. Un mot peut-être sur la candidature José Bové qui était hier à Aubagne.
C'est un homme qui porte. Voilà un homme public qui répond dans un certain cadre à une volonté populaire, citoyenne. On le voit. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ?
Alors pourquoi ne pas le soutenir
que... Parce que je ne change pas. Attendez, je ne suis pas girouette totale, moi. Je veux dire, j'ai soutenu un candidat. J'ai appelé à un candidat qui s'appelait Nicolas Hulot. Je ne vais pas m'amuser parce qu'il n'est pas candidat à dire « je fais José Bové ». Je regarde ce que fait José Bové, comme ce que fait Dominique Voynet, avec beaucoup d'intérêt. Et de la proximité, si vous voulez, idéologique, aussi bien pour Dominique que pour José. S'ils réussissent à faire plus de 5% aux élections présidentielles, ils auront servi à quelque chose. S'ils ne réussissent pas à faire plus de 5%, je doute de la nécessité. Vous m'excusez. Voilà, donc je regarde José avec intérêt. Je regarde ce qui se passe derrière avec intérêt. C'était une des candidatures. Je regrette de vous dire que si José Bové avait été candidat en mars dernier, et pas maintenant, en mars dernier, en mars 2006, les capacités d'union du mouvement intermondialiste, les capacités par rapport aux Verts, les capacités par rapport à la gauche communiste LCR ou PC mélangée, comme vous voulez, auraient été tout autres. Là, on se retrouve avec, dans le cadre de la gauche intermondialiste ou dans la gauche antilibérale, on se retrouve avec combien de candidats? 4, 5, je ne me rappelle même plus.
Cela dit, cette gauche antilibérale, vous vous situez quand même à l'écart de cette dynamique-là. En particulier, ils se sont fédérés autour d'un combat qui était celui pour le non au traité européen, qui n'a pas été le vôtre.
C'est peu de le dire, oui. Et je le revendique 10 fois. Quand on voit l'état de l'Union européenne aujourd'hui, quand on voit le peu de poids de l'Union européenne dans les notions internationales par rapport aux guerres existantes, par rapport au potentiel diplomatique, par rapport au conflit moyen-oriental et ainsi de suite, l'absence de l'Union européenne, d'un cadre diplomatique réel, d'une vraie politique d'affaires étrangères de l'Union européenne est catastrophique. L'absence de politique réelle du Parlement européen par rapport à l'agriculture, par rapport à la politique agricole commune est catastrophique. Je reste totalement d'accord avec le fait que j'ai appelé à voter oui, pas sur le côté constitutionnel qui était évidemment peu ou prou libéral au niveau social, c'est peu de le dire, mais par rapport au corpus général d'une Union européenne existant réellement, je pense que c'est indispensable. Sinon, on laisse aux États-Unis le règne sur aux amis de Bush, si vous voulez, le règne sur la politique internationale générale, je pense que c'est un vaste gâchis.
Bové et ses amis, en particulier des minoritaires verts, hein, assez minoritaires, mais qui ont rallié sa candidature, disent on ne peut pas défendre l'écologie sans une critique radicale du système libéral ou capitaliste, ils emploient le mot. Est-ce que là, c'est un vocabulaire ou une démarche politique qui vous paraît maintenant dépassée?
La façon de le dire, on peut le dire de manière différente, mais c'est évident que le développement durable est totalement incompatible avec le libéralisme, bien évidemment.
C'est impossible. C'est la notion de c'est affirmé dans votre programme.
Mais évidemment, oui. Depuis René Dumont, il y a aucun changement dans la ligne politique des Verts, quel qu'il soit, et en France et dans le cadre européen globalement, sur le côté. La notion de profit immédiat est incompatible avec le développement.
Mais ça, on n'a jamais entendu Hulot et on n'aurait jamais attendu Hulot pour tenir un discours comme ça.
Excusez-moi, je vous ai mal regardé France Europe Express le soir où il était face à. Face à Nathalie Kosciusko-Morizet et face à quelques autres, Bruno Robben notamment aussi, qui est avec Ségolène Royal. Il a employé des termes par rapport aux notions d'urgence sociale qui allaient de pair avec l'urgence écolo, bien évidemment.
Parce que votre programme est quand même très à gauche et même antilibéral.
Il est très à gauche. Notre programme est suffisamment. Le programme écolo, depuis des années, est suffisamment révolutionnaire en soi dans les changements de mode de vie pour ne pas en rajouter. Ne pas en rajouter sur le caractère révolutionnaire. Le changement de mode de vie, tout le monde a compris aujourd'hui qu'il est indispensable. Par rapport au transport, par rapport à la santé, par rapport à l'environnement, par rapport au logement et ainsi de suite. Ça suffit, pas la peine d'en rajouter. Nous ne sommes pas là pour angoisser nos concitoyens et l'ensemble de la planète. Nous disons simplement les choses simplement par rapport aux risques qui existent et aux changements normaux attendu et obligatoire de mode de vie. Alors, mode de vie, si on change maintenant, on a encore des capacités de faire que ça ne change pas le mode de vie général des classes moyennes et des gens qui sont évidemment qui vivent dans la grande pauvreté, ça changera évidemment le mode de vie des classes supérieures, c'est évident.
Alors, avant d'arriver plus profondément dans votre programme, voir un petit peu les différentes solutions que vous proposez, un mot peut-être sur votre grand frère, on peut les appeler comme ça, en l'occurrence les socialistes.
Donc, je prends grand frère les socialistes. Ce sont des partenaires.
Des partenaires
potentiels, oui.
Vous leur parlez d'égal à égal ou...
Ah, moi, je leur parle d'égal à égal depuis très longtemps. Oui, ça va, oui.
Alors, comment se situent les Verts aujourd'hui à l'approche d'échéances électorales relativement importantes vis-à-vis des socialistes? On a vu que François Hollande avait repoussé les négociations pour les législatives après le premier tour.
Normal.
Vous semblez ne pas être vraiment entendu.
Normal.
La problématique avec les Verts, c'est qu'en fait, vous avez une direction nationale qui tient un discours, vous, aujourd'hui, dans ce studio, qui en tenez un autre.
Non, je tiens un discours libre, comme d'habitude.
D'accord.
Quand j'étais secrétaire national, je tenais déjà un discours libre. Je tenais pas un autre discours. J'avais pas un discours d'apparatchik normal ou lambda. Je tenais exactement le même. Je pense que ce parti mérite mieux. Je pense que ce parti a 8000 adhérents, mais ça n'est pas suffisant. Je pense que nous devons être 50 000, 100 000 si nous voulons peser dans la vie politique et si nous voulons être à l'égal de ce que la population pense de nous et attend de nous. nous attendons, la population attend de nous des réalisations. Attend de nous. C'est-à-dire pour ça, d'ailleurs, qu'ils votent beaucoup plus facilement vert au niveau des élections municipales, des élections régionales, des élections européennes. C'est-à-dire qu'ils pensent que c'est dans la plus grande proximité. Au niveau national, c'est un problème. Non, par rapport aux socialistes, la seule solution pour qu'il n'y ait pas cette négociation boutiquière et totalement politicienne qui n'intéresse personne sur socialiste, vous nous devez 30 députés pour qu'on ait un groupe parlementaire. Tout ça est absolument incompréhensible par le commun des mortels. C'est de mettre une bonne dose de proportionnel au niveau des législatives et que l'ensemble des courants politiques démocratiques représentants en France soient représentés à l'Assemblée nationale avec un juste poids. Rendez-vous compte qu'on a 3 députés aujourd'hui. 3 députés, même en prenant les 2% aujourd'hui dans les sondages, ceux qui vont sur Dominique Bonnet et les Verts, 2% ça fait 30 à 40 députés.
Vous pensez quoi de la campagne de Ségolène Royal, telle qu'elle s'engage ?
J'attends de voir. Vous savez, j'ai tellement entendu, pendant la campagne de Ségolène Royal, en interne du PS, sur ses gaffes, sur ses ceci ou cela, sur la façon de mal s'organiser, sur le fait qu'elle ne serait pas à la hauteur, pour être suffisamment sage aujourd'hui, pour attendre de voir entre, disons, le 11 février et la fin février, pour voir où elle en sera fin février, et après on en discutera. Pour l'instant, moi, je vois une campagne qui, présidentiellement, si tu veux, de Ségolène ou de Sarkozy, n'est pas passionnante, c'est le moins qu'on puisse dire. Le seul qui est un peu décalé par rapport à ça et qui la joue pas mal, c'est Bayrou, par rapport à tout ça. Mais bon, j'attends de voir. Je crois au sondage, contrairement à beaucoup d'autres. Je pense qu'ils ne se trompent pas. Que les estimations qu'ils font sur le temps T donné par le sondage sont des bonnes estimations. Mais on verra début mars, mi-mars, où en seront tous là, et on verra comment Ségolène aura réussi à rebondir. Voilà, elle a pris, on a dit tellement de choses pendant sa primaire, avec face à Strauss-Kahn et à Fabius, machin truc, elle se débrouillait mal, et ainsi de suite. Elle l'a emporté haut la main au PS. Je pense que le PS, avec ses 200 000 adhérents, ou un peu plus, ou un peu moins, est assez représentatif de l'électorat de gauche, ou de l'électorat de Ségolène, pour me dire qu'il peut se passer la même chose au niveau de la France.
Sur ses ambitions vis-à-vis de l'écologie, vous la croyez sincère, les socialistes
On est plus sincère que d'autres, c'est évident. Elle a moins de difficultés à parler d'environnement ou parler d'écologie que beaucoup d'autres hommes politiques ou femmes politiques socialistes. Vous savez, j'ai l'habitude de le dire, hein. Lionel Jospin ne parlait d'écologie ou d'environnement pendant la majorité plurielle entre 1997 et 2002 que pour faire plaisir à Dominique Voynet. C'est sympa de faire plaisir à Dominique Voynet, nickel. Mais il n'en parlait pas de manière naturelle. Je crois que Ségolène en parle un peu plus de manière naturelle. Après, j'attendrai de voir dans les réalisations, dans le fait de dire, par rapport à l'ADEME, par rapport à l'Agence de maîtrise de l'énergie, quels seront les financements nécessaires à la mise en place du développement considérable, rapide, d'énergie renouvelable. J'attends de voir par rapport au transport, quelle politique de transport collectif, quelle politique de transport ferroviaire des marchandises, et ainsi de suite. Sur des actes concrets. Comment les budgets seront répartis sur des actes concrets de réalisation dans les 5 ans, pas dans les 20 ans, dans les 5 ans. On verra.
Prenons un exemple concret qui est très fédérateur chez les Verts, peut-être c'est le dernier sujet fédérateur, à savoir c'est le nucléaire. Mmh. Là on a l'impression que c'est qu'il y a un certain cafouillage quand même. On a repéré, grâce aux renseignements généraux, la présence de Bruno Rebelle dans le staff de Madame Royal. Ouais. Mais alors aussitôt prononcer un point de vue sur la question d'une sortie progressive ou en tout cas d'une diversification concernant l'énergie par rapport au nucléaire. Mmh. Aussitôt, tous les éléphants ont largement dit qu'ils n'étaient pas d'accord, que ça n'allait pas se passer comme ça. Enfin, par exemple, là, sur ce dossier-là, qu'est-ce qui se passe là ?
Sur ce dossier-là, il devrait se passer comme ce qui se passe dans le cadre de l'Allemagne ou de l'Union européenne en global, hein, une sortie progressive en 25 ou 30 ans. C'est possible, c'est faisable.
C'est vraiment acté, ça,
dans le dossier ? Ah non, c'est pas acté du tout. Une des grandes difficultés de discussion avec les socialistes, bien évidemment, oui, qui sont, pour beaucoup d'entre eux, ou beaucoup d'entre elles, sous le poids important des différents lobbies nucléaires existants en France, c'est peu de le dire. Le lobby qui n'existe pas ailleurs, hein, comme vous avez pu le voir, je veux dire, globalement, le reste du monde ne se bat pas pour relancer le nucléaire. Ça, c'est du baratin français, ça.
D'accord, on va se rapprocher un petit peu de la région PACA, on parle des présidentielles, il y a des législatives, tout ça est imbriqué, hein, les idées et les stratégies. Les législatives, vous n'êtes pas candidat
Non, je suis déjà conseiller régional et député européen, et député une fois me suffit amplement.
Cela dit, là, en PACA, c'est quelque chose qui paraît, un député vert, ça paraît...
Ça paraît assez important dans le sens où il y a des réalisations qui sont et des défis surtout qui sont assez complexes. ITER, le rail, les routes.
Dites-moi le numéro de la circonscription et je vous dirai si c'est possible. Je veux dire, on a déjà eu un député apparenté, ça vous a pas échappé, André Ascheri. Oui. Bon, il risque.
Qui vous a échappé d'ailleurs.
Non, il ne nous a pas échappé, toujours apparenté. Non, il est apparenté PS aujourd'hui.
PS, oui, c'est un petit peu différent. C'est la même maison. Quoi.
C'est pas dramatique, on est dans la même majorité. Allez, on s'est régional. Passons. Donc voilà, si vous avez une circonscription à nous définir. Aujourd'hui, non. Vous savez, il est très difficile de négocier pour un parti vert à 1,5-2% dans les sondages, avec des socialistes qui sont entre 26 et 29 et qui n'ont pas que ça à faire, si vous voulez. Quoi.
Alors, il y a une circonscription qui se libère, là, celle de Bernard Granier, qui est en ce moment en prison.
Ce qui est dommageable.
Avec un thème très porteur pour vous, en l'occurrence, le recyclage, les déchets, l'incinérateur.
Enfin, il vous a pas échappé qu'il y avait déjà un député, non?
Oui, Monsieur Vaxès, oui.
Communiste. Qui fait partie d'une certaine majorité au Conseil régional. Ça m'a pas échappé, moi, en tous les cas. Donc c'est complexe, si vous voulez, j'en sais rien, moi, par rapport à ça. D'abord, cette histoire par rapport à l'incinérateur et par rapport au West et Tamber et par rapport à Granier qui est en prison. J'aimerais savoir ce qu'il en est réellement. Les éléments que j'en ai, moi, c'est-à-dire de l'extérieur, font que ça n'a pas l'air aussi simple que ce qui a été écrit ou ce qui a été dit. Hein, il semblerait que ce soit pas que derrière tout ça, il n'y ait pas forcément quelque chose de très important. On va voir.
Enfin, il est toujours incarcéré.
Qu'il est toujours incarcéré. Pour un homme politique est extrêmement lourd à porter. Et je n'aimerais pas être à sa place. D'ailleurs, je n'y suis pas. Mais clairement, on verra bien. Je veux dire, je ne suis pas certain qu'il soit de bon goût aujourd'hui de dire, ah, puisqu'il est en prison, allons nous présenter là-bas. Je trouve ça un peu.
Au-delà du bon goût, vous avez parlé, c'est vous-même qui avez parlé d'efficacité politique, de réalisation. C'est là l'occasion de faire des réalisations.
Non. La raison de faire des réalisations, c'est d'être porteur au niveau national par rapport à des projets globaux, hein, notamment ce qu'avait extrêmement bien fait Dominique Voynet par rapport aux déchets, c'est-à-dire la remise à plat de l'ensemble des plans départementaux de gestion des déchets. Hein. Bouches-du-Rhône a pris un peu de retard, ça ne vous a pas échappé, par rapport aux autres départements français, et ainsi de suite. Alors qu'on en est encore à discuter de savoir comment on met en place du recyclage sur la communauté urbaine de Marseille et sur la ville de Marseille. Ce qui est totalement scandaleux, je ne connais pas une autre ville en France et une autre communauté urbaine qui en soit à ce point, le retard est considérable. Hein, on a reçu des très beaux tracts dans nos boîtes aux lettres dernièrement sur « chers concitoyens marseillais, recycler et aller mettre vos déchets quelque part ». Le problème, c'est qu'il faudrait encore qu'il y ait des endroits pour mettre ces produits recyclés. Il n'y en a pas, si vous voulez. Il n'y en a pas suffisamment. Tout ça est fait à la va comme je pousse, uniquement dans un système de communication et non pas dans un système de réalisation. Voilà. Bon, après ça, savoir si on se présentera aujourd'hui dans le cadre normal d'une élection législative et dans le cadre de discussions avec le PS arrêtées, la logique voudrait qu'on se présente partout. Dans toutes les circonscriptions, notamment en PACA. On verra bien, on va voir comment évoluent les élections présidentielles et les élections législatives.
Je reviens sur le dossier incinérateur. Ouais. Suite aux décisions judiciaires, suite effectivement à l'incarcération de celui qui était un des porte-drapeaux de la contestation de cet incinérateur, est-ce que les choses sont très mal parties ou est-ce qu'il y a encore une chance de rebondir, selon vous, par rapport à l'opposition à ce projet?
Il y a toujours une chance de rebondir. La chance de rebondir, c'est que il n'y a pas que les élus qui étaient contre. Il y a un ensemble, une population qui était contre. Une population autour de l'étang de Berre et sur Ouest étang de Berre qui disait « halte là, stop ». De la pollution, on en a suffisamment. Ça fait 25 ans qu'on dure, 35 ans qu'on a de la pollution. Pas la peine d'avoir de la pollution en plus. C'est là-dessus que je compte, moi, sur le côté résistance populaire, réalisation et résistance citoyenne qui fait que, globalement, les jeux ne sont pas joués. Je ne comprends pas pourquoi M. Godin s'accroche à ce point, à ce projet. Ou alors je comprends trop bien.
Expliquez-nous.
Si vous voulez, il faut, dans ce cadre-là, il n'est pas fou. Jean-Claude Godin est tout sauf un homme imbécile, idiot. C'est un homme intelligent. Pourquoi s'accroche-t-il à ce point? Quand il a 80% d'une population proche de Marseille contre son projet de réalisation. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il semblerait que, globalement, derrière tout ça, le poids des lobbies financiers soit extrêmement important. Le poids de ceux qui devraient construire l'incinérateur par rapport à d'autres projets sur la ville de Marseille soit extrêmement important. Et que, dans ce cadre-là, vu les finances de Marseille, qui sont des finances en difficulté vu la pauvreté de la ville, que Jean-Claude Dallas se retrouve coincé par rapport aux négociations. Parce que sinon, je ne comprendrais pas comment une intelligence politique comme celle de Jean-Claude Godin, continuerait à ce point à se mettre à dos des gens qui n'ont aucune raison de se mettre à dos.
L'élu qui est actuellement en prison est présumé, hein, présumé coupable de corruption.
Ou présumé innocent.
Ou présumé innocent, oui. Plutôt d'ailleurs.
Oui. Selon la loi française.
Mais toutefois, la société qui est en cause est une société de recyclage. Et on voit que tout ça est imbriqué. Et voilà, donc il y a une question qui se pose. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, inversement, des intérêts financiers, politico-économiques liés à un refus de l'incinérateur?
Nous vivons dans un monde qui n'est pas simple. Et le monde, justement, c'est pour ça que nous tenons. Alors, nous tenons fortement, et je tiens forcément, à ce que la notion de service public, la notion d'entreprise publique soit conservée. Et je me bats pour ça au niveau de l'Union européenne et du Parlement européen, pied à pied, pour que cette notion-là soit préservée. Et qu'on arrête d'avoir des délégations de services publics non contrôlées, non contrôlées réellement, et qu'on donne à telle ou telle entreprise privée telle ou telle prérogative. Et bien voilà ce que ça donne. Ça donne qu'effectivement, tout d'un coup, il y a un mélange des genres, et que ce mélange des genres est insupportable, et qu'après, on peut, à tort ou à raison, et là, je ne sais pas si c'est à tort ou à raison, j'en sais rien. À tort ou à raison, accuser tel ou tel élu d'être manipulé, d'être financé, et ainsi de suite, par des entreprises privées.
La Tchatche, c'est l'émission mensuelle du satirique Le Ravi avec les 3-8.
La Grande Tchatche, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille.
Et comme invité, Jean-Luc Benamias en parle d'écologie politique. Jean-François Pouplein.
Alors, il y a une des grandes réalisations quand même des Verts au niveau régional, c'est le programme Altéritaire.
Ouais.
Est-ce que, bon, dont on n'arrive pas à comprendre un petit peu son financement, parce qu'une partie semble un petit peu dans les projets, dans les contrats de projet entre État et région, mais en tout cas, il y a une volonté de faire avancer les énergies renouvelables, un certain nombre de choses dans la région. Est-ce que vous pouvez le présenter un petit peu?
C'est extrêmement simple. Il ne faut pas le voir difficilement, justement. Et surtout, il faut sortir de savoir si c'est 75 millions d'euros, 80 millions d'euros, 100 millions d'euros. Ce qui est important, c'est que la région s'est engagée maintenant à développer considérablement et la maîtrise de l'énergie, et les économies d'énergie, et les énergies renouvelables. Que ce soit l'éolien, la filière bois, le photovoltaïque, le chauffage solaire, et ainsi de suite. C'est parti. Alors, vu le retard considérable qu'on avait, c'est peu de le dire en PACA, c'est énorme. Alors qu'après, sur les fonds, dit altéritaire ou agir altéritaire, voter à la région. Il y a financement en même temps de la rénovation de la ligne de train entre Marseille et Briançon. Et je ne m'arrête pas à Manosque, moi. Je vais jusqu'à Briançon, bien évidemment. Ben, c'est très bien, nickel, que ça finance le lycée international de Manosque. Mais je dis nickel, si les populations locales peuvent aller dans ce lycée.
Ça, c'est un problème.
Non, c'est le même problème. C'est de faire que les gens puissent bénéficier des mêmes propositions et des mêmes progrès faits par la région. Voilà, globalement, c'est un des plus beaux résultats écolo ouvert dans le cadre d'accord avec le Parti Socialiste. C'est-à-dire mettre sur pied, avant les élections, un accord en disant 1 euro pour 1 euro, 1 euro ITER, 1 euro économie alternative, énergie alternative. Voilà. Après ça, j'aspire à ce qui est... Moi, je ne me reste pas sur les chiffres. 75 millions pour l'instant d'euros. Hein. C'est en gros la moitié de ce que met la région sur ITER, puisque l'autre moitié est mise sur le train, le lycée, et ainsi de suite. Et que ça, on considère que c'est une bonne politique. Donc 75 millions. Mais si c'est plus, tant mieux. On se battra pour que ce soit plus. Ce que nous voulons, c'est que toutes les filières d'énergie alternative et d'énergie renouvelable en Provence, Alpes-Côte d'Azur, ça a mis en place dans les 4 ans. Et bien, ce sera fait.
Là, c'est quand même un paradoxe, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un énorme projet nucléaire qui se mette en place pour qu'on dégage une volonté politique pour faire de l'alternative.
Ne tombez pas dans l'extrémisme à ce niveau-là. Le projet ITER est un projet certes nucléaire, mais est un projet de recherche. Alors, je rappelle une fois de plus, et là, je parle au nom des Verts, quelle est la base depuis des années, depuis au moins 15 ans chez les Verts, des négociations sur la recherche par rapport aux énergies? Aujourd'hui, sur les énergies, 95 à 98% du budget de recherche sur l'énergie passe sur le nucléaire. La base de l'accord des Verts passé depuis extrêmement longtemps dans les discussions avec la CGT Énergie, avec le PS et avec d'autres et avec le PC, c'est on laisse 50% sur la recherche sur le nucléaire, mais on veut 50% sur maîtrise de l'énergie, économie d'énergie, énergie renouvelable. C'est exactement ce que nous avons passé comme accord. ITER, vous savez bien que c'est pour dans 50 ans. Dans 10 ans, on aura peut-être les premiers éléments de montage et la fin du montage du processus et du moteur ITER. Ça va. Si on a montré dans les 10 ans qui viennent Et c'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on espère faire. Que, avec énergie renouvelable, avec économie d'énergie, avec maîtrise de l'énergie, on est capable de répondre à une grande partie des besoins de nos concitoyens. Je pense que le projet ITER pourra encore prendre plus de retard.
C'est quand même 10 milliards d'euros hein, qui vont sérieusement assécher.
Union européenne, internationale, Japon, Amérique, États-Unis, et ainsi de suite. Bien sûr, ce ne sera pas 10 milliards d'euros. Mettez le double, multiplié par 3 dans les 50 ans. Bien évidemment, tous les chiffres qui sont donnés aujourd'hui sont des chiffres sur un temps T donné aujourd'hui. Mais c'est sur un... Vous savez, c'est une telle folie, cette histoire. C'est pour ça que ça me fait rire, en fait. Cette histoire de dire... on va, productiviste et scientiste, si vous voulez. Alors qu'on a à disposition du solaire... à plein temps jusqu'à maintenant au niveau direct. Non, nous, les êtres humains, on est très malins. On va le refaire sur Terre pour qu'il produise de l'énergie. C'est d'un ridicule. Enfin, c'est-à-dire, quand on discutera de ça dans 50 ans ou dans 100 ans, je pense qu'il y aura vraiment de quoi rire. Voilà, nous, on préfère faire et utiliser le solaire directement aujourd'hui. Et puis, dans 50 ans ou dans 100 ans, si ITER, ça marche, tant mieux pour ceux qui l'ont produit. Si ça marche pas, ça fera que le Concorde, et ainsi de suite.
C'est pas un problème qu'on vous identifie quand même toujours à travers l'écologie. Enfin, pour moi, j'ai regardé un petit peu votre programme. Il y a un réel programme politique aussi.
Mais vous savez, on est attendu.
Au-delà de ça.
Mais l'écologie répond à tout par rapport à tout ça. Je ne vais pas vous faire le coup du paradigme écolo qui répondrait à tous les besoins de la société parce que je n'y crois pas. Mais ça répond à un certain nombre de besoins. De l'écologie, on touche à l'économie, on touche aux finances, on touche à l'emploi. Vous savez, tous les emplois dont je vous parle, sur les énergies renouvelables, sont des emplois non délocalisables. Hein, la filière bois, la filière solaire, la filière éolienne, ça, c'est des emplois locaux avec derrière des politiques de formation, des politiques d'emploi direct et d'emploi aussi bien de petites mains et avec des salaires les meilleurs possibles et d'ingénieurs et les plus qualifiés possibles. Tout ça, on est dans la pratique la plus totale, si vous voulez. Et donc, on est directement, en partant de l'écologie et de l'environnement, dans un schéma de développement durable, dans un schéma de développement local.
Est-ce que c'est pas un petit peu dur au niveau de la région? Si on voit la culture politique de Michel Vauzel, elle est justement quand même très inscrite dans une tradition classique de gauche productiviste.
Il fait des progrès.
La 51, l'autoroute, le tunnel, le canal Rhin-Rhône. Enfin, il y a pratiquement plus qu'un seul élu en France qui en parle, et c'est Michel Vauzel.
Non, chaque fois que je fais une émission, on m'en parle de toute façon. Ça me fait rire parce que c'est abandonné depuis longtemps, et maintenant il s'agit du canal. Qui pourrait exister, Rhône, Somme, Rhin.
Et le président de région de votre majorité défend toujours
ça. Oui, parce qu'il regrette toujours que Dominique Voynet ait réussi ça dans les années 97 en négociant avec Jospin. Mais ça, c'est pas grave, c'est du passé. Non, dans le présent, regardez l'évolution de Michel Vauzel par rapport aux énergies renouvelables. Les éoliennes, il y a encore 3 ans, pour Michel Vauzel, c'était des grands ventilateurs. Qu'est-ce qu'il a fait en Camargue il y a à peu près 3-4 mois? Il est allé inaugurer les éoliennes. Il a compris.
Ça, c'est la valeur ajoutée des Verts au sein du Congo.
Quant à Nicolas Hulot, dont je vous parlais tout à l'heure, qui passe d'animateur à militant écolo, Michel Vauzel a le droit de faire la même chose. Moi, je regarde avec extrêmement d'intérêt les évolutions positives des gens. Et Michel fait, par rapport à cela, des évolutions notables. Est-ce qu'il a... Regardez par rapport à l'accord sur ITER. Vous savez, il y a beaucoup d'accords qu'on a passés avec les socialistes qu'on avait passés dans les années antérieures, où les socialistes disaient, dès qu'on les avait signé, on s'en fout des accords. Il y a respect total jusqu'au jour d'aujourd'hui des accords qu'on avait passés sur ITER et Alter-ITER. Respect total, sans qu'on insiste, sans qu'on soit là pied à pied en train de dire Michel, rappelle-toi, on a signé.
Non, même pas la peine. Ça a été voté, le budget a été voté que pour 2007 pour l'instant.
Ah non, il y a le plan énergie 2010 qui permet de voir que les budgets seront évolutifs et toutes les progressions sont marquées dedans. Bien sûr,
à on voter vote... chaque année.
Évidemment qu'on vote chaque budget chaque année, sinon ça ne se ferait. Attendez, heureusement, c'est comme ça que ça fait. C'est demain qu'on passe ça. Demain.
Finalement, vous êtes meilleur en agitateur d'idées qu'en parti politique, si.
Pourquoi
Vous arrivez à influencer les autres de manière assez positive, mais...
Je serais extrait. Vous savez, je le dis souvent, j'aimerais que l'ensemble des partis politiques démocratiques de France et d'ailleurs mettent en place toutes nos idées. Mais ce serait génial. Parfait.
Mais les Verts en PACA, enfin, c'est peu de choses quand même sur le plan du personnel politique et de vos relais.
Ça va quand même, on n'est pas si négligeable que ça. On a quelques élus, ça va.
Quelques élus.
On progresse, mais c'est bon. Oui. Enfin, je veux dire, c'est pas, on est loin d'être le... Non, ça, je trouve que nos élus régionaux, notre élu conseiller général dans les Alpes-Maritimes, Jean-Raymond Vansiguera, fait bien son boulot. Nos quelques élus municipaux font bien leur boulot. Puis attendez les prochaines municipales, vous n'avez pas tout vu.
Alors justement, la prochaine municipale, comment ça se passe avec les socialistes?
Mais c'est pas le problème, ça, les socialistes, pour l'instant. Au municipal, on va faire des listes à Aix, à Arles.
Je suis pas mais là, apparemment, vous avez fait l'impasse sur le législatif, donc...
Non, ça, c'est... Oui, bah, c'est difficile, hein. 1,5-2, c'est difficile. Hein. Je veux dire, oui, c'est difficile de penser qu'on aura des
élus. Alors, ce qui est difficile pour les législatives sera beaucoup plus facile pour les municipales?
Les municipales, par rapport aux écolos et aux verts, c'est nettement plus simple depuis les premières élections municipales où les verts se sont présentés. Enfin, c'était pas les verts, c'était les écolos à l'époque, en 77. Ce sont des élections qu'on réussit tout le temps. Sur des scores entre 8 et 20% selon les villes. D'ailleurs, vous avez dit tout à l'heure que je m'étais présenté à Noisy-le-Grand quand j'étais encore en Seine-Saint-Denis, il y a quelques années, et que le score était loin d'être brillant. Excusez-moi, 12,5% au premier tour et maintien au second tour face à une liste PSPC avec 20%. Je trouve ça pas mal, je veux dire, pour les Verts, je trouve ça même plutôt brillant. Que j'aimerais qu'on soit à ce score-là, au niveau présidentiel et législatif, ce serait pas mal.
Alors sur Marseille, il y a déjà un candidat déclaré, Christophe Madrol.
Mais c'est peu de le dire. Et une candidate, Marianne Moukamel. Ça fait deux. Ça fait deux journalistes.
Justement,
c'est bien, c'est paritaire.
Avant de rentrer dans la cuisine des Verts au
non,
niveau des municipales
de la cuisine,
et autres, comment ça se passe avec les Verts? On rappelle aux éditeurs quand même que les Verts ont été mis sous tutelle par vous à l'époque.
Fini. Ah oui, là, non.
Oui, non, il faut rappeler quand même le passé.
Oui.
Alors comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que la situation s'est assainie? Est-ce qu'on parle d'une seule voix?
On ne parle jamais d'une seule voix, ça se saurait. En tous les cas, sur les Bouches-du-Rhône et sur la région, les choses vont pas trop mal. On n'est pas les Verts les moins organisés. Mais on était encore sous tutelle, vous avez raison. Mais ça vient d'être levé depuis quelques semaines. Donc voilà, nous avons un nouveau secrétaire régional qui s'appelle François Michel. Et j'oublie son nom de famille, c'est génial. On va le retrouver. Comment ça se passe? Vachement bien.
Vachement bien. Alors un mot peut-être sur ces municipales de manière beaucoup plus concrète. Quels sont les thèmes qui feront cette campagne, qui feront la différence justement avec les socialistes, l'UMP, puisque chacun maintenant au niveau local, on a vu que Marseille est la première ville de France à signer le pacte d'écologie de Nicolas Hulot. Ça va se faire le 15 en présence de Nicolas Hulot. Comment vous allez faire On vous a invité par courtoisie.
Pas du tout, je suis à la première plénière avec Nicolas Hulot à 18h30. Et donc je suis aussi à l'inauguration, vous m'excuserez.
Donc comment vous allez donner consistance
avant
à votre voix?
Avant Jean-Claude Gaudin d'ailleurs dans la plénière, si vous voulez, mais c'est pas grave. Pardon?
Comment vous allez donner de la consistance à votre voix, sachant que les collectivités locales aujourd'hui s'emparent également de l'écologie?
Mais tant mieux qu'elles s'en emparent, mais qu'elles le fassent, qu'elles passent au stade des réalisations. Que j'aimerais que sur la ville de Marseille, il y ait vraiment recyclage, valorisation des déchets, que j'aimerais que cette ville soit propre, que j'aimerais que cette ville ait une politique de transport, non pas uniquement au niveau du centre-ville, mais une politique de transport aussi bien au nord, à l'est, au sud, une vraie politique de transport. Ce serait génial, on va pousser à cela. Alors sur quoi on va faire la campagne? Mais là-dessus. Sur une ville qui soit au service de ses concitoyens, une ville qui permette que tout le monde vive en ville de manière aisée, de manière conviviale. Et donc, ça touche au transport, ça touche évidemment au logement, ça touche évidemment à la santé, à l'environnement, à la petite enfance, à la qualité dans les groupes scolaires. On a des groupes scolaires, mais qui sont à Marseille, au niveau physique, pratique, dans une déficience totale. Il y a tout ça à faire. Le programme, il est global.
Le fait que Jean-Claude Gaudin signe ce pacte, oui. ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire que soit ce pacte ne veut pas dire grand-chose, soit Jean-Claude Gaudin est un grand écologiste. Enfin, comment expliquer ce paradoxe?
Jean-Claude Gaudin serait un grand écologiste, ça se saurait. Que Jean-Claude Gaudin, à l'instar de Jacques Chirac, et compris quelque chose maintenant à tout cela, j'en ai bien l'impression qu'il passe au stade des réalisations et des réalisations budgétaires. Et on verra. Très bien, moi je me félicite que des gens rejoignent le champ politique de l'écologie politique, de la défense de l'environnement, de la sauvegarde de la planète. Tant mieux qu'ils passent au stade des réalisations.
Même si ça leur réussit mieux qu'à vous, parce que selon les sondages, les gens font plus confiance pour résoudre les problèmes écologiques à des partis comme le Parti Socialiste ou l'UMP qu'au Parti Écologique Vert traditionnel.
Je sais pas, vous avez vu ça?
Mais sondage, il n'y a pas très longtemps.
Non, par rapport aux présidentielles, vous avez raison. Oui. Mais par rapport aux élections locales, pas du tout. Si vous voulez que je vous rappelle les scores des Verts aux élections locales, aussi bien sur Lyon, Nantes, Grenoble, Lille, pour ne pas parler de Paris, et ainsi de suite, globalement, on est sur des scores encore aujourd'hui qui vont entre... D'ailleurs, dans les sondages aujourd'hui qui circulent au Conseil Général, à la mairie, vous en faites pas, on est très très bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est toujours respecté, que sinon à 1,5-2%, on ne peut pas être respecté.
Mais y compris en PACA, parce que là, vous nous parlez PACA, de Lille, oui. Lyon, Paris. PACA.
Oui, Aix, Arles, Marseille, bien sûr.
Est-ce que vous n'êtes pas coincé dans un paradoxe, à savoir que les
idées... Si, je suis coincé dans plein de paradoxes.
Les idées de développement durable sont maintenant partagée par tout le monde, reprise par tout le monde. Enfin, il y a l'aspiration à...
Les idées
plus personne n'ose dire l'écologie, ce n'est pas important, il ne faut pas s'en occuper. Mais est-ce que ce n'est pas finalement la disparition annoncée du mouvement que vous représentez?
Mais non, mais de toute façon, si on était amené à disparaître, si les choses se réalisaient, je ne le regretterais en aucune manière. Si les choses se réalisaient, s'il y avait réalité derrière... Le développement durable, moi je m'excuse, s'il y a compréhension un peu sur la défense de l'environnement, les changements climatiques, l'effet de serre, il était temps, c'est vrai. Sur le développement durable, oui, je pense qu'ils ont compris. Le développement durable, pour une grande partie de nos hommes et nos femmes politiques, c'est le développement qui dure et c'est la croissance qui répondra à tous nos besoins. C'est pas ça le développement durable. La croissance, le développement durable, c'est la maîtrise justement de la croissance. C'est savoir comment, dans certains secteurs, il y a décroissance, transport routier, transport de marchandises, et comment dans d'autres secteurs, il y a croissance. Éducation, culture, santé et ainsi de suite. C'est ça le développement durable. Je pense pas que malheureusement ils aient compris ça. Je pense qu'ils ont compris ça comme je vous dis, le côté durable. Ah oui, ça va bien, la croissance va durer. Non, c'est vraiment un côté complètement biaisé. C'est un peu comme les grandes entreprises. Certaines ont compris, très peu. D'autres font du développement durable parce qu'ils disent, effectivement, ça monte en bourse, c'est durable.
Des efforts sont faits pourtant, l'eurovignette pour pénaliser les poids lourds et favoriser le rail.
Ce serait très bien ça, oui. C'est pas encore fait ça, hein. C'est pas encore fait, malheureusement, ça va très lentement. Parce que ça va à l'encontre du libéralisme. Favoriser le rail, nickel. Si vous regardez les politiques menées par le Parlement européen, non, par l'Union européenne et la Commission européenne aujourd'hui, par rapport au transport, excusez-moi, ça va à l'inverse. On se bat contre ça, mais on a gagné, on a eu une victoire dernièrement au Parlement européen où on a réussi à éviter, pour l'instant, que le transport ferroviaire des usagers, de nos concitoyens, soit privatisé avant 2017. J'espère que cette victoire continuera. Mais on a gagné de très peu.
On parle de rail, justement. Alors, le contrat de projet État-région qui vient d'être signé... Enfin, qui va être signé, effectivement, mais qui est quasiment validé, parle beaucoup de rail. À le lire, on a l'impression, encore une fois, c'est peut-être une histoire d'affichage, qu'on va être la région du tout rail qu'on va combattre. Mais si on regarde ensuite la façon dont sont répartis les budgets, ils vont l'être, la route reste encore l'endroit qui absorbe le maximum de budget. Est-ce qu'on n'est pas sans arrêt dans un décalage de discours, d'affichage?
De quelle route vous parlez? Allez-y, donnez-moi des exemples précis, parce que si c'est sur des routes, des améliorations de sécurité routière, les Verts ne sont pas contre. Si c'est de la création de nouvelles routes ou nouvelles autoroutes, les Verts sont contre. Et moi, je n'ai pas vu dans le contrat de projet la mise en place et la subvention de nouvelles autoroutes ou de nouvelles routes. Si c'est la sécurité, c'est autre chose. Par contre, ce que j'ai vu, c'est le rattrapage. Pas assez rapide, mais le rattrapage quand même, d'une politique de transport collectif sur les voies Marseille-Aix, sur les voies Marseille-Aubagne, sur les voies Marseille-Briançon et ainsi de suite. Ça, je l'ai vu. Voilà.
Mais les routes ne sont pas dans le contrat de projet, mais la région va abonder dans tous les équipements. Par exemple, le tunnel, le second tube qui va être réalisé à Toulon, la région va cofinancer cet équipement, etc., etc.
Nous sommes d'accord. Ce sont des politiques menées sur lesquelles les Verts se battent pied à pied en pensant que ça n'est pas une bonne chose. Okay, on a le droit quand même, par rapport à nos partenaires du PS et du PC, d'avoir quelques divergences. Nous avons des divergences par rapport à cela, notamment sur ce second tunnel à Toulon. Mais on était contre le premier tunnel à Toulon. Qu'est-ce que ça a fait, le premier tunnel à Toulon? Certes, ça a libéré quelques instants de circulation. Ça a augmenté la circulation à des temps T entre 11h30 et midi et demi, et le soir à chaque rentrée. Et donc maintenant, évidemment, qu'est-ce qu'ils disent les automobilistes de Toulon? Faites-nous le second tunnel, qu'on puisse rentrer de la même manière. Bon. C'est un puits sans fond. Plus on crée de routes et d'autoroutes, plus il y a de circulation. Donc à ce niveau-là, je pense qu'on ne se trompe pas et peut-être que dans 10 ou 15 ans, on en discutera et tout d'un coup, tout le monde dira « Mais oui, les écolos, les Verts avaient raison, on n'y avait pas pensé avant. » Que plus on augmente la surface autoroutière ou routière, plus il y a de circulation, c'est une évidence.
Un mot peut-être sur une autre problématique qui concerne la région et au-delà de la région, beaucoup d'autres régions, c'est l'eau. Alors Emmanueli a porté un texte qui était relativement intéressant, celui des régies contre le privé. Les Verts, ils se situent où par rapport à ce projet?
On est totalement d'accord avec Henri Emmanueli pour une fois. On est dans l'association avec lancée sur la politique de l'eau, la remise en régie municipale, la remunicipalisation. Et on revient à ce qu'on disait au départ, tout à l'heure, sur la gestion de déchets. Ce sont les mêmes sociétés qui gèrent l'assainissement, qui gèrent la gestion de l'eau et qui se font un beurre absolument phénoménal sur le dos des concitoyens, sur le dos des usagers. Et il n'y a aucune raison que dans le cadre des services publics, les collectivités locales régional, conseil général et surtout les communes et les intercommunalités ne gèrent pas la politique de l'eau. On essaye de voir avec Michel Partage, maire de Varages dans le Haut-Var, et d'autres, Daniel Mitterrand et quelques autres, comment on peut, avec la mairie de Grenoble, d'autres mairies, comment on peut dire à différentes collectivités locales, avec Henri Ménuelier ici, dire à différentes collectivités locales, dès qu'il y aura fin des contrats de délégation de services publics avec telle ou telle société privée, reprenez en main, c'est possible et c'est moins cher, l'ensemble des sociétés publiques de gestion de l'eau.
Et c'est un message qui porte ou...
Il est en train de porter parce que quand on regarde les factures et quand on regarde très vite comment le prix de l'eau, qui est un prix, par ailleurs, l'eau étant une ressource naturelle, c'est pôle dur, rare et potentiellement cher, c'est pas le problème du prix en fait, c'est le problème de savoir qu'est-ce qu'ils font avec cet argent. Or, si vous regardez bien les factures, ce qui est très difficile, hein, même moi, quand je dis une facture de flotte qui m'arrive chez moi, j'ai du mal à voir toutes ces lignes. Il y a par exemple des lignes de maintenance. On s'aperçoit que sur la maintenance, on vous prend X% d'argent sur la maintenance, il n'y a jamais de maintenance. Il y a maintenance quand il y a tout d'un coup des dégâts. Mais s'il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de maintenance. Et on vous prend 15-20% sur cette ligne. Et on s'aperçoit, quand on reprend après en régime municipal, ceux qui l'ont fait s'aperçoivent que, globalement, ils ont plein de travaux à faire qui n'ont pas été faits par les sociétés privées, qui, elles, sont sur quoi là-dedans? Le profit le plus important pour les actionnaires et donc le profit immédiat. C'est l'inverse du développement durable.
Un des autres problèmes que rencontre la région, c'est celui de l'agriculture. Comment maintenir une tradition et au-delà d'une tradition, une activité économique. Et en même temps, ça rencontre le problème du foncier. Alors l'attitude des Verts là-dessus et l'attitude ambiguë des socialistes, vos partenaires naturels.
Pourquoi ambiguë ? La difficulté, c'est le foncier. Vous savez bien que c'est très difficile. On est sur une société où le bien privé, la propriété privée, est depuis la Révolution française, est quelque chose d'inaliénable et d'intouchable. Quand les prix du foncier augmentent, qu'est-ce que vous faites? Alors, vous mettez de côté, la région a mis de côté quelques millions d'euros par rapport au prix du foncier, c'est quelques centaines de mètres carrés potentiellement achetables. Par contre, la politique menée par le Conseil régional au niveau agriculture est absolument formidable. Aide aux paysans petits et moyens, aide aux paysans qui font du bio, aide à toutes les structures qui s'occupent des circuits courts, c'est-à-dire ce qu'on appelle les AMAP et ainsi de suite, aide totale. Et à ce niveau-là, alors là, on peut s'en féliciter, c'est une politique de développement durable totalement assumée et totalement faite. Alors avec les moyens de la région ne dispose pas de tous les moyens. Et sur le foncier, si j'avais réponse facile à ça, et si quelqu'un vous trouvait une réponse facile chez les politiques pour savoir comment on maîtrise le foncier, ça se saurait. Hein. Je veux dire, il est clair qu'il faut s'attaquer dans ce cadre-là à des biens privés. C'est extrêmement compliqué.
Michel ?
Oui, une question qui permet de faire le lien entre votre activité au Parlement et puis à l'actualité plus locale, quoique, à savoir le rachat de l'OM par un personnage au parcours encore atypique. Un petit peu atypique, voire énigmatique, à savoir M. Kashkar. Vous en pensez quoi, vous qui réclamez plus de transparence financière dans les...
Je le réclame au niveau de l'Union européenne.
Oui.
Et de l'UEFA. Je mangeais avant-hier avec Michel Platini. Pas moi tout seul, hein, vous en faites pas, on était une vingtaine. Mais oui, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. On était une vingtaine de députés à s'occupant donc de ce rapport.
Nouveau président de l'UEFA. Hein.
Merci. Mais il l'a emporté, alors qu'on n'a pas eu les Jeux Olympiques, on n'a pas eu Kouchner à l'OMC. Michel Platini a été président de l'UEFA. On a eu ITER et Platini maintenant. Vous vous rendez compte, deux victoires internationales.
Quel bonheur, oui. Quel bonheur.
Incroyable. Bon, c'est pour rire, mais pas totalement. Clairement, on voit bien que dans le monde du foot, à Marseille comme ailleurs, hein, Marseille n'est pas spécifique par rapport à tout cela. Il n'y a pas de transparence. Ce monsieur qui a acheté, il nous a l'air très bien. Il a l'air très sympathique. D'où viennent ces fonds? On n'en sait rien. Mais d'où viennent les fonds du fonds de pension qui vient d'acheter un club en Angleterre, Liverpool, si je ne m'abuse, avant-hier? D'où viennent les fonds de M. Abramovich à Chelsea? D'où viennent les fonds? Ainsi de suite. Ce qu'on a, et ce qu'on essaie de faire au Parlement européen, c'est de dire à l'UEFA et à la FIFA, les grandes instances du football, nous, on vous propose de créer un organisme indépendant de contrôle financier et de transparence financière. Ça n'empêchera pas les magouilles. Ça empêchera que toutes les magouilles, que dans les magouilles qui sont faites, eh ben, ça permettra peut-être qu'il y en a quelques-unes qui sortent. Je vous donne un exemple. L'Agence mondiale antidopage. Elle n'a pas répondu à tout. Il y a toujours du dopage. On vient de retrouver encore une championne d'athlétisme hier avec de l'EPO. Les histoires qui circulent autour du cyclisme avec Landis, ça continue encore aujourd'hui, et ainsi de suite. Bon, maintenant, l'Agence mondiale antidopage permet justement qu'un certain nombre d'athlètes qui se dopent, d'athlètes, cyclistes, et ainsi de suite, dans le monde du sport professionnel, soient chopés. C'est pareil par rapport à la transparence financière, par rapport à tout ce qui est la gestion d'argent, plus ou moins légal ou plus ou moins illégal, dans le monde du foot. Marseille n'est pas spécifique, il faut arrêter de se dire ça, pas spécifique par rapport à ça. On est plutôt d'ailleurs les clubs français plus vertueux par rapport à ça que les clubs anglais, espagnols ou italiens. Les clubs allemands et les clubs français sont à minima, je dis bien à minima, contrôlés par la DCNG, c'est-à-dire la direction nationale des comptes des clubs et ainsi de suite. Donc on essaye au niveau de l'Union européenne d'aider les grandes instances du football associatives comme l'UEFA ou les grandes instances mondiales comme la FIFA à gérer tout ça. Et à ne pas laisser à la Cour européenne de justice gérer tous les conflits économiques et financiers qui se gèrent dans le monde du foot ou du sport professionnel. Parce que, au niveau général, le sport professionnel au niveau de l'Union européenne est considéré comme une activité économique normale. Donc, dans le cadre de la libre concurrence, ce qui permet toutes les dérives. Et toutes les dérives, on les a aujourd'hui.
Et alors, Michel Pettirini, favorable
jusqu'à maintenant,
l'arbitrage européen et...
Tout le rapport qu'on a fait avec d'autres députés européens, quatre autres députés européens, un Allemand, un Irlandais... un flamand, un belge et un hollandais, ce rapport est passé, a passé toutes les strates des commissions. Maintenant, il passe en plénière le fin mars. Globalement, tout ce qu'on a proposé pour l'instant et tout ce que j'ai proposé est passé.
Ouais. Rappelons quand même que c'est Michel Vauzelle, alors garde des Sceaux, qui avait donné un grand coup de pied dans la fourmilière du football, qui avait vu la tourmente, le début de la tourmente de Bernard Tapie. Jean-François ?
Non, mais je voulais juste revenir, c'était aussi sur cette histoire, voir si M. Platini... Vous donnez une oreille assez favorable, parce que lui aussi est confronté à des lobbies, hein, et de très puissants lobbies. Hein.
C'est marrant, parce que ce Michel est surprenant. On s'attendait pas... Non, mais c'est vrai.
Le bonhomme, lequel, précisons.
Mais Platini.
Voilà.
On s'attendait pas à ça de la part de ce bonhomme. C'est... Il va nous jouer Killy, quoi, en fait, quelques années après. Jean-Claude Killy, pour rappeler, qui était un grand skieur et qui, après, est devenu une grande pointure internationale, notamment dans le cadre olympique et dans le cadre commerce international et tout ça, et dans le cadre olympique. Il est vraiment sur une base de défense du football dans toutes ses spécificités, à la fois défense des différents clubs, défense des différents pays, petits comme grands pays, et défense d'un secteur footballistique ou sportif à l'européenne, et pas à l'américaine, pas à l'états-unienne. C'est-à-dire, aux États-Unis, vous avez le sport professionnel complètement coupé du reste du monde sportif, totalement coupé, avec des franchises, du pognon, puis tout le reste n'importe peu. Michel Platini tient un discours, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je l'ai encore entendu avant-hier, tenir un discours sur une juste répartition, une redistribution. On verra bien, comme vous l'avez dit vous-même, il va avoir fort affaire avec ce qu'on appelle les ligues professionnelles, c'est évident.
Mais le futur dirigeant de l'OM... Enfin,
c'est pas futur, il est déjà là.
Oui, mais enfin, c'est pas finalisé pour le coup.
C'est vrai.
Pour l'instant, il est spectateur, privilégié, mais spectateur.
Il court dans le terrain, je l'ai vu.
Il arrive avec justement un discours, je veux faire de cette marque quelque chose de très rentable, il vient pour faire de l'argent, enfin, là, il s'illusionne, c'est légitime. Attendez,
Ça fait combien de temps que à l'OM, les différents présidents de l'OM, je me rappelle de Leclerc dans les années 70, ils venaient bien pour faire de l'argent, je veux dire, c'était clair. Ils venaient bien parce que l'OM a une image, une vraie image, en plus c'est une image populaire et citoyenne. Et en plus, jusqu'à maintenant, on échappe à l'OM et dans le stade à tout slogan discriminatoire, à toute présence d'extrémistes de droite et ainsi de suite, pourvu que ça dure. Donc voilà.
Autour du stade, c'est pas toujours très...
Comme autour de tous les stades, il y a des cons et il y a des cons partout. Il y a des cons autour du stade à Marseille. Il y en a malheureusement un peu moins que dans d'autres stades, dans le cadre de l'Union européenne et dans d'autres stades français, notamment autour du Paris Saint-Germain. Mais passons. Clairement, moi, ça ne me dérange pas qu'un président de club dise « Je vais faire vivre ce club ». Vous savez, je préfère, dans le cadre sportif professionnel, que ce soit des fonds privés réguliers et transparents qui s'occupent de l'ensemble plutôt que des fonds publics. Je n'aspire pas à ce que la ville de Marseille, la communauté urbaine, la région, le conseil général financent sur les fonds publics du sport professionnel au-delà de l'aide au centre de formation par rapport aux gamins.
On arrive presque au terme de cette émission, Jean-Luc Benhamias. Une question, puisqu'elle est à la mode, vous payez l'impôt sur les fortunes, vous ?
J'y ai réfléchi. Je me suis posé la question comme tout le monde. Non, j'en suis très loin.
Non, parce qu'il y a eu un numéro du Point, si je ne m'abuse, début avril, qui donnait les émoluments des conseillers régionaux. Ouais, 44 000 euros par an, c'est pas mal quand même.
Non, je touche par mois, je touche 1 800, ça fait quoi ça ?
Je ne sais pas. L'effort en maths, là ?
1 800, ça fait 40 000.
44 000, oui. Sur une année.
Oui, c'est vrai, ouais, c'est ça. 1 800 euros.
Avec une forte augmentation ces 10 dernières années.
Ah non, pas du tout. Ah non, ne croyez pas, bien au contraire. Alors là, sur les émoluments des conseillers régionaux, députés européens, je me plains pas, on est très bien payés, on est payés comme les sénateurs et les députés nationaux. Des conseillers régionaux, c'est un scandale. Les conseillers régionaux, comme les conseillers municipaux, sont totalement sous-payés par rapport à la charge de travail. Je vous le dis. 1 800 euros. Évidemment, c'est un fort salaire par rapport au SMICAR, je suis d'accord. Mais par rapport au travail d'élu, avec la notion de travail absolument exorbitant, à plein temps, n'importe quand, et ainsi de suite, c'est très très mal payé.
Vous êtes devenu un professionnel de la politique.
Ça c'est clair, je le suis, je l'assume.
Le monde change avec les Verts, changeant le monde, ça c'est votre slogan Jean-Luc Benhamia. C'est un dernier petit mot pour conclure vis-à-vis de cette échéance électorale. Vous vous sentez motivé ?
Motivé pour battre Sarkozy, oui.
Marginalisé chez les Verts ?
Mais non, je suis marginalisé chez... Mais est-ce que j'ai l'air marginalisé ?
Vous avez encore des camarades ?
Oui, il en reste un ou deux, oui.
C'était La Grande Tchatche, le Ravi, le mensuel satirique dans tous les kiosques. Prochain invité, ce sera le 9 mars. Ce sera avec Michel Vauzel, président du conseil régional PACA, Michel Guéraud, Jean-François Pouplein et Rafi Amal vous ont présenté l'émission.